Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Parodienne Rhapsody. Ça faisait plusieurs épisodes que l'on parlait d'une sorte de grand courant français de la parodie des années 90-2000, avec la Cité de la Peur, les Anavissus, etc. Mais il est temps de remonter aux origines profondes de tout ça. Et comme beaucoup de choses françaises, notamment télévisuelles, les origines sont à trouver aux États-Unis. En effet, nous allons aujourd'hui commencer à nous intéresser à l'œuvre de trois parodieurs très célèbres, les Zaz, avec leur tout premier film, Kentucky Fried Movie, appelé en français Hamburger Film Sandwich. Tout d'abord, je vous demande de me féliciter. En effet, je me suis retenu très fort de faire un jeu de mots entre le nom de ce collectif et une célèbre chanteuse à la non moins célèbre voix. Et pourtant, les Zaz, pour Zucker, Abrams et Zucker, sont des réalisateurs, scénaristes et producteurs américains qui ont fait date dans l'histoire de la parodie et qui ont œuvré parallèlement à Mel Brooks dans les années 70-80. Il est certain que c'est de cet univers-là, et notamment des Zaz, que les grands collectifs d'humoristes français des années 90 se sont inspirés pour leur propre réalisation, ce que l'on perçoit dans la manière de créer de l'humour et de créer des décalages, mais aussi de par des petites références et hommages. Ainsi, pour faire la continuité entre cet épisode et celui d'avant, on peut noter que la chanson « La Carioca » est visiblement une référence au générique du film qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est donc avec un regard éclairé sur ce qui fut la postérité de ce film que nous allons tenter d'analyser Kentucky Fried Movie. Et je dis bien tenter, car KFM, pour faire court, est un film très particulier pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, je dirais que la raison numéro 1 qui rend ce film spécial est sa structure. Il s'agit d'un film à sketch contenant un plat de résistance, appelé pour une poignée de yens, d'une durée de 30 minutes et accompagné antérieurement et postérieurement de lui de nombreux petits sketchs. L'unité de ce film est accomplie par un thème global qui est la parodie de contenus audiovisuels divers, dans un cadre spatio-temporel précis, que nous analyserons en détail plus tard, à savoir l'Amérique des années 70. Mais en réalité, l'analyse est rendue compliquée, car il y a une vraie diversité de contenus qui sont proposés ici. On ne peut pas analyser de la même manière un sketch très court qui ne repose en général que sur un décalage, sur une idée, comme un court de 30 minutes. De plus, il s'agit d'un large panorama, ce qui signifie que le commentaire d'ordre contextuel pourrait être très long pour chaque sketch, sans pour autant que cela soit pertinent compte tenu du lien entre ce contexte et la parodie qui en est réalisée. Ainsi, un des sketchs est un faux trailer d'un film parodique du courant Blaxploitation, dont il y aura évidemment beaucoup à dire tant il représente un mouvement important à la croisée de chemin entre le social et le cinématographique. Nous ne pourrons cependant malheureusement pas développer sur tous ces contextes autant que j'aimerais, d'autant que la parodie est souvent très fine, mais je trouve qu'on s'y perdrait en détail pour finir par ne plus voir l'essentiel de KFM. Nous adopterons alors un regard plus global sur le film, avec un développement plus précis sur la parodie de Résistance, à savoir A Fistful of Yens. Tentons cependant rapidement de caractériser ce panorama. Le film se compose en 20 sketchs allant de quelques minutes à plus d'une demi-heure. On y retrouve une variété de contenus, du JT, de la pub, du trailer, du documentaire éducatif, de la série télé, du reportage. Tous sont en lien avec le monde de l'audiovisuel. Le titre permet également de caractériser ce panorama. La mention de l'état du Kentucky et plus largement la référence à la célèbre chaîne de restaurants servant du poulet frit donne le ton. Le film est américain. Le cinéma et la télévision que nous allons y voir sont donc eux aussi très américains et les références qui y sont faites ne parleront pas à tout un public d'aujourd'hui, d'autant plus s'il est européen. Du moins en apparence. Car on remarque astucieusement que nos petits filous de la télévision française ne se sont pas privés pour copier certaines émissions américaines. La fausse émission Courtroom, censée parodier un mouvement inconnu en France de séries télé portant sur la mise en scène de procès plus ou moins fictifs, donne par exemple l'impression d'une parodie de fait entrer l'accusé. En effet, si les Américains sont passionnés du tribunal, la tradition française est de se passionner pour les grands récits de faits divers. Au-delà de cet exemple, cela montre une chose. Si clairement ce film s'inscrit dans un contexte spatialement, temporellement et cinématographiquement et également télévisuellement marqué, ça fait beaucoup, à savoir la télévision et le cinéma des années 70 aux États-Unis, le spectateur français pourra s'y projeter dans une certaine mesure, de par l'exportation de certains de ses contenus, notamment concernant la parodie de films de Bruce Lee, ou de par les similarités entre un tel contenu américain et un autre tel contenu français. Enfin, il me semblait intéressant de remarquer que, même si j'en ai pas parlé, les Monty Python ont aussi fait leur premier long métrage sous forme de film à sketch. Cela nous dit quelque chose sur la manière dont est faite la parodie. Si la parodie peut être considérée comme une imitation ponctuée, ou plutôt pétrie, de nombreux décalages, alors on remarque qu'une seule longue parodie peut parfois être très dure à écrire, car il faut trouver de nombreuses idées de décalage tout en maintenant la construction du film et la portée des enjeux. La forme du film à sketch permet de s'affranchir assez aisément de ces contraintes et permet de créer du contenu à partir d'une simple idée poussée au maximum. On remarque ainsi que la plupart des premiers formats longs de collectifs humoristiques à tendance parodique sont sous cette forme, avec comme exemple récent La folle histoire du Palmacho, en référence directe au film de Mel Brooks, ou encore ce que fait Golden Moustache à W9 avec leur spécial parodie. Afin d'entamer notre approche un peu surplombante donc de ce qu'est Kentucky Fried Movie, je souhaite commencer par développer un point essentiel qui est commun à toutes les parodies du film, à savoir le mécanisme utilisé. On voit en effet qu'on retrouve justement dans cette manière de parodier des éléments de parenté entre ce film et La Cité de la Peur par exemple, beaucoup de gags passant par le visuel. On retrouve donc au départ une imitation d'un code donné. Cela peut être celui du journal télé, avec la figure du présentateur cadrée de façon typique, avec une série de séquences là aussi typiques, comme le duplex ou les chroniques. On a donc toute une première partie de la parodie qui s'affaire à nous transmettre l'idée que nous sommes dans un espace codifié et que l'on connaît. Comme toujours, je souhaite souligner l'importance de la qualité d'exécution de ce moment, puisqu'en effet la capacité à imiter dans le détail certains codes va souvent être l'élément décisif pour avoir ensuite une parodie très fine, qui va aller jusqu'à l'essence même du code. La parodie est, de ce fait, un moment très intéressant pour le spectateur, car elle nous permet de prendre pleine conscience des nombreux codes que l'on a intériorisés, et de la richesse de ceux-ci. Par exemple, dans A Fistful of Fiends, la parodie de film de Bruce Lee, de Kung Fu donc, on retrouve de nombreux mini-éléments caractéristiques du genre, qui sont donc autant de conventions partagées entre le réalisateur et le spectateur. On a ici par exemple l'ascenseur, que l'on doit souvent attendre ou atteindre pour continuer la progression, la scène d'infiltration, encore la résistance de l'ennemi final pendant le combat, alors que le héros a le plus souvent dégommé tout le monde avant ça. Ces codes sont ainsi autant de possibilités de décalage, de jeu, de création inattendue et donc de rire. Ainsi, si l'on parle de parodies visuelles ou de gags visuels, ils sont en réalité plus que visuels. Ils sont de l'ordre du code, du genre, de la nature cinématographique, puisqu'ils mettent à profit les us et coutumes, le script, le décor, les costumes, la manière de filmer et le son au sens large, et pas seulement l'aspect purement visuel. Au-delà de ce mécanisme très simple, plusieurs choses caractérisent particulièrement la parodie présente dans ce film. KFM est d'abord le premier film de Zaz, et on remarque que contrairement à La Cité de la Peur qui semble assez à l'aise, ici les mécanismes sont plus visibles. On va par exemple plus voir le passage entre le code reproduit et le code détourné, on va garder les choses simples du côté de la pure exécution. C'est peut-être aussi un ressenti dû au format du sketch, dont la structure est fatalement plus simple que celle du long métrage, puisqu'il faut être efficace en peu de temps. Par ailleurs, c'est dans la nature des détalages traits que l'on va pouvoir retrouver le style de Zaz. Bien sûr, si on devait utiliser qu'un seul mot pour le décrire, ça serait absurde. La volonté de surprendre le spectateur est poussée à un certain niveau de raffinement, ce qui force le respect. On va de ce fait retrouver de nombreux jeux déjà étudiés, comme celui sur le sens des mots, le figuré devenant littéral, le double sens étant exploité. L'idée reste de rendre débile quelque chose, soit en utilisant le potentiel de débilité déjà présent dans le code, mais exploité de telle manière qu'il en devient débile. Par exemple, lors de la parodie de trailer du film Catastrophe, That's Armageddon, qui pousse la surenchère jusqu'à l'absurde. Soit en ajoutant un élément qui rend la situation parfaitement conne, Spectrum en mettant en scène une association qui vise à intégrer les cadavres de gens morts donc dans la communauté, ou le sketch du Touchorama. Évidemment, il existe plein d'autres manières d'utiliser et de rendre absurde quelque chose que je n'ai pas mentionné, mais être exhaustif semble ici assez compliqué et pas fondamentalement intéressant. Remarquons cependant quelques éléments souvent utilisés pour parodier dans les différents sketchs du film. Tout d'abord, on a un élément aussi présent dans La Cité de la Peur, mais ici bien plus exploité, à savoir le jeu avec le manque de budget du film. Au total, ce film ne coûta que 1 million de dollars, ce qui est très peu pour l'époque. On remarque que cette contrainte a probablement stimulé la créativité des scénaristes, les As, et du réalisateur, John Landis, puisque de nombreux ressorts parodiques sont de l'ordre du suédage, c'est-à-dire l'art de faire du pastiche amateur à mini-budget, mis sur le devant de la scène par le film Be Kind Rewind, soyez sympa, rembobiné, qui traite justement de cette pratique. Là où La Cité de la Peur n'utilise ce ressort qu'en l'annonçant afin de créer une scène bruitée à la bouche, ici c'est plus un esprit qui habite l'œuvre, où c'est parfois les professionnels des médias qui sont tournés en ridicule, le reporter de AM Today, le perchman dans High Adventure, où la simplicité des décors et des objets utilisés participent au ridicule et à l'absurde global du film. Le film contenant d'ailleurs quelques objets ou éléments de costumes tirés d'autres films. Un autre de ces éléments pour créer l'absurde souvent utilisé est le mélange impromptu avec un autre code. On retrouve une sorte de parodie de tournée manège, je suis pas sûr de la référence ici, à l'intérieur de Pour une poignée de yens, des codes de la publicité s'invitant également dans Sex Record ou encore Courtroom qui donne parfois l'impression d'un véritable camoulox. On retrouve même l'esclave de l'amour, héros d'un précédent sketch, qui débarque dans A Fistful of Yens. De façon globale, les références à peu près tous sont nombreuses, et notamment des références internes, avec la réutilisation du schlock issu du précédent film de John Landis, où la présence de See You Next Wednesday, film fictif, le retrouve dans la plupart des films du réalisateur. John Landis qui, je le dis au cas où ça ne vous dise rien, est le réalisateur de petits trucs comme le clip Thriller de Michael Jackson, ou les Blues Brothers, et dont KFM est le second film. D'ailleurs, petite digression, je trouve qu'il y a un lien intéressant qui pourrait être fait, justement, entre la carrière de John Landis et celle d'Athanavicius. Enfin bref, on retrouve des sortes de références internes au film, en plus évidemment de toutes celles externes. Opération Dragon pour A Fistful of Yens, qui possède un nom qui évoque déjà les films de Sergio Leone, etc. Enfin, et parce qu'il faut aussi en parler à un moment donné, et parce que ça fait aussi partie du truc, l'humour et la parodie à l'intérieur de ce film est aussi caractérisable par le pipi, le caca et le cucu. Je suis pas sûr d'être capable d'expliquer vraiment pourquoi, mais je peux vous parler un peu du comment. En effet, comme pour tout ce qui est de l'ordre de l'humour, tout est question de dosage. Or là, on remarque que si tout cela se passe bien, c'est probablement car ce sont des éléments en toile de fond, que l'on n'appuie pas, et je pense que c'est la meilleure solution pour faire rire avec des conneries, car c'est ce qui se passe en vrai. Je m'explique, qu'est-ce qui vous fait le plus rire? Un prof qui possède un nom auquel on peut associer des blagues pipi caca cucu, ou le lourdeau qui fait la blague? C'est souvent la réponse A, vous remarquez. Voilà, donc ce qui est drôle, c'est d'avoir un principal vagin, et que ça soit totalement normalisé. Et bien évidemment, c'est le cas dans ce film aussi. Voilà à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce film. On va essayer de résumer en intégrant dans la conclusion quelques éléments que j'ai volontairement laissés de côté. Kentucky Fried Movie est un film simple et efficace. Il possède de bonnes idées, bien exploitées, et joue assez bien avec les contraintes qui furent les siennes. Il tourne en ridicule une bonne partie du cinéma et de la télévision de l'époque, avec visiblement une certaine aisance, ce qui nous est inspiré par le nombre d'idées de décalage qui sont mises dans le film. Les sketchs de KFM sont des parodies toutes très riches, soit en termes de quantité d'idées, comme avec l'exemple parfait du cours pour une poignée de yens, soit dans l'exécution d'une idée, avec ici comme exemple parfait le sketch final. On retrouve même quelques messages d'ordre politique en arrière-fond, s'inscrivant dans une Amérique déjà tourmentée à ce niveau-là. Cependant, et c'est le défaut de la plupart des films à sketch, je trouve que l'on perd l'utilité du film, ou plutôt de la notion même de long métrage. Tout reste assez superficiel. En regardant le film, je trouve qu'on n'arrive pas fondamentalement à comprendre pourquoi il a été fait de cette manière, à part pour faire rire. Je veux dire, oui, l'absurde peut être une raison suffisante, mais dans chaque film, il y a souvent une raison plus fondamentale que ça. Et on revient à ce que je disais au début. Le film traverse tout un contexte qu'il vit, mais n'a pas le recul sur celui-ci. Il se contente de montrer en parodiant. D'une certaine manière, aujourd'hui, en regardant ce film, on a vraiment l'impression d'être dans une sorte de galerie d'exposition, dans un cours d'histoire du cinéma et de la télévision américaine de cette époque. Pas d'hommages particulièrement marqués, pas de crédits particulièrement acerbes, juste des œuvres détournées dans leur code. Moi, je trouve qu'il manque quelque chose, à vous de voir ensuite, mais je salue quand même la performance. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui, merci de l'avoir écouté en entier. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je vous informe que Parody & Rhapsody s'arrêtera malheureusement à la fin de cette saison. On aura l'occasion déjà de faire quelques épisodes avant ça, hein. On a encore 2-3 épisodes ensemble, et j'espère qu'on aura aussi l'occasion de faire un épisode spécial pour terminer cette émission qui fut pour moi la première émission de radio que j'ai pu faire. Ne vous inquiétez pas, si vous inquiétez en tout cas, je prépare des pilotes que je proposerai à Radio Kawa pour la saison prochaine, donc il y a des chances que vous me voyez encore à Radio Kawa l'année prochaine, la saison prochaine. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à l'émission sur iTunes. Il reste encore quelques épisodes, donc pour pas les manquer, c'est la meilleure chose à faire. N'hésitez pas également à lâcher les commentaires, comme on disait à une certaine époque. C'est toujours important, voilà, pour moi de lire tout ça. C'est toujours très intéressant. Parody & Rhapsody est toujours une émission produite par Radio Kawa. N'hésitez pas à aller checker les autres podcasts de la web radio qui sont toujours aussi formidables. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode, toujours le troisième jeudi du mois. À très vite, des bisous, et je vous laisse avec quelques bandes annonces à la radio. Voilà.
En direct et avec vous, grâce au hashtag Passe le Stick.
Bonsoir et bienvenue dans Passe le Stick, l'émission qui va bientôt prendre des vacances.
Pas capable de faire
bien mérité parce qu'on est rendu. Mais non, mais alors,
s'il vous plaît, ça ne va pas le faire. On ne pourra pas faire tenir un Passe le Stick en 20 secondes. Alors, ce que je vous propose, chers auditeurs, c'est de nous écouter tous les lundis dès 21h pour plus d'une heure d'actualité jeux vidéo en direct sur Radio Kawa. Et là, au moins, on devrait avoir le temps.
Tout à fait.
Merci Pipo.
Bonjour à tous, je suis Amo et je présente Kaorin, le podcast musical de la culture visuelle japonaise. Animation japonaise, jeux vidéo, doujin music, où on vous fait écouter la musique et on vous présente les œuvres, les artistes et les compositeurs. Tous les genres, toutes les époques, tous les styles, avec pour seul objectif celui de vous aider à explorer la grande variété des œuvres japonaises. Kaorin, c'est un mardi sur deux, et c'est sur Radio Kawa.